À la fin du mois de janvier, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a publié un premier rapport sanitaire sur l'état de santé des migrants qui vivent en Europe. Parmi les constats dressés, la nécessité de se concentrer sur la vaccination des enfants et de prendre en compte les mutilations génitales féminines ainsi que les violences sexuelles subies par les populations. Avec, une fois arrivés en Europe, un accès aux soins qui varie grandement d'un pays à l'autre, car si en Turquie les migrants peuvent bénéficier des mêmes soins que la population locale, à contrario, l'Allemagne, pour ne citer qu'elle, ne garantit que des soins d'urgence. Dans plusieurs villes de France, de 2016 à 2020, le programme scientifique MIGSAN, pour Migration et Santé, s'intéresse au parcours de santé des primo-arrivants, c'est-à-dire qui arrivent pour la première fois en Europe, et originaires de pays hors de l'espace Schengen. Parmi les problèmes de santé rencontrés, des pathologies préexistantes, certaines liées au traumatisme des migrations, notamment d'ordre psychologique, puis une fois en France, des problèmes de santé, par exemple liés à l'insalubrité des logements occupés. Le suivi des grossesses constitue également un volet à part entière du programme scientifique Migration et Santé. Alors la précarité et la lourdeur des démarches administratives rendent l'accès aux soins compliqué pour les migrants, et du côté du personnel des établissements de santé, les représentations ont, malgré la bonne volonté des soignants, un impact sur leurs pratiques. Alors, les migrants introduisent-ils des pathologies dans les pays d'accueil? Assiste-t-on à une surveillance des corps au sein des établissements de santé? Comment certains soignants contournent-ils l'institution pour traiter des personnes sans papier? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions auxquelles nous allons répondre. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invitée Anne-Cécile Oyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche CNRS pour Centre National de la Recherche Scientifique en Géographie au laboratoire ESO pour Espace et Société. Et parmi vos thématiques de recherche, on retrouve les migrations et santé ou encore les inégalités sociales et spatiales toujours de santé. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie. Bonjour à tous.
Colette, c'est à vous.
Anne-Cécile Oyer, vous êtes géographe, vous avez étudié à l'université de Rouen. Et pourquoi avez-vous privilégié ce thème de la santé pour vos recherches?
Alors, le thème de la santé, c'est toujours un thème qui est très développé à l'université de Rouen, avec une spécialité de géographie de la santé qui a été très travaillée par plusieurs collègues, et notamment par Alain Vaguet, qui était mon directeur de thèse, spécialiste à la fois de l'Inde et de la santé. Voilà, donc c'est un démarrage qui s'est fait par affinité thématique au départ, et puis ensuite par une espèce d'engrenage pris ensuite par la passion quoi, entre la géographie de la santé, l'Inde et la mondialisation.
Et donc, vous avez fait votre doctorat sur le yoga, on y reviendra vers la fin de l'émission. Et dernièrement, vous êtes impliqué dans un programme qui s'appelle MIGSAN et qui se terminera en 2020. Est-ce que vous pourriez nous raconter de quoi parle ce projet?
Oui, alors avec plaisir. Ce programme, donc c'est un programme qui touche sur les migrations et la santé, et plus particulièrement sur l'expérience de la santé telle qu'elle est vécue par les primo-arrivants, donc les migrants hors espace Schengen qui arrivent actuellement, qui sont récemment arrivés sur le territoire français. Donc on travaille sur leur expérience de la santé, on travaille sur leur trajectoire de soins pour ceux qui sont dans un suivi pour une maladie. Et on étudie un petit peu tout ce qui se joue pour eux en termes d'accès aux soins, en termes de continuum pour les soins. Et on étudie aussi en vis-à-vis tout ce qui se passe pour les équipes soignantes qui ont à prendre en charge ces migrants dans différents contextes actuellement. Donc ce programme, on le développe en France, mais dans différents sites, notamment à Rennes, à Nantes, à Poitiers et à Strasbourg.
Et quelle population alors vous êtes amené à rencontrer? Qui sont les femmes et les hommes et peut-être les enfants aussi que vous rencontrez?
Alors on fait bien d'en parler pour commencer, en effet, parce que migrant, c'est un terme un petit peu générique pour décrire une catégorie très diverse de personnes. Donc en effet, il s'agit d'hommes, de femmes. Alors nous, on travaille que sur des adultes pour des raisons très particulières sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez, mais on travaille vraiment que sur des adultes. Voilà, avec différentes origines. On ne travaille que sur les migrants qui sont hors espace Schengen pour pouvoir bien capter ce qui se passe pour les migrants qui sont hors du périmètre de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits à la santé par rapport aux ressortissants de l'Union européenne. On travaille sur des personnes qui ont d'âge différent, qui ont une composition familiale différente. Donc ça nous aide à...
Par exemple, je me permets de vous interrompre au fur et à mesure, ces personnes arrivent de quel pays ?
Eh bien, on a une très grande diversité de pays. On retrouve tous les migrants d'Afrique subsaharienne. On retrouve également des migrants qui viennent d'Amérique du Sud. On trouve aussi des migrants dits d'Europe de l'Est, hein, Roumanie, Bulgarie, mais aussi Géorgie, Russie, pour les minorités tchétchènes, par exemple. Mmh. Un peu de migrants originaires d'Asie du Sud, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka.
D'accord.
Voilà. Donc on ne se cantonne pas à une origine particulière, on se cantonne vraiment au statut quoi, par rapport à ressortissant de l'Union européenne ou non.
Christian ?
Alors peut-être une question un peu générique sur la mondialisation de la santé, parce qu'on a évidemment en tête un schéma nourri de représentations médiatiques sans doute, hein, selon lequel ce qui circule le plus volontiers à l'échelle mondiale aujourd'hui, ce sont les pathologies en réalité. On a tous en tête voilà, les images de grippe qui circulent en bateau, en avion, etc., que les gens transportent avec eux. Or, ce que vous dites, c'est que circulent aussi des thérapies, des façons, des rapports anthropologiquement situés à la maladie et aussi des traitements, des thérapies, des façons de se soigner. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ?
Oui, alors, d'abord, vous faites bien de rappeler ce hiatus entre... pathologie et migrants, on pourrait peut-être juste s'arrêter là-dessus, parce qu'en effet, les virus circulent beaucoup, mais c'est, voilà, faut prendre beaucoup de précautions, parce que c'est pas parce que les virus circulent qu'ils circulent aussi avec les migrants. Et en effet, du coup, quand on passe par ce tournant de l'analyse par la mobilité, par le tournant de la mobilité, on se rend compte que c'est pas que les virus ou les individus qui circulent, mais aussi les savoir-faire, les compétences, les objets.
Est-ce que vous diriez que c'est un des ressorts du discours xénophobe, la représentation du virus qui circule comme ça?
Oui, oui, c'est oui. Historiquement, en fait, le lien entre santé et immigration tourne beaucoup autour de ça. Tout ce qui est contrôle des populations va de pair avec le contrôle sanitaire et les deux se sont souvent superposés dans l'histoire migratoire de plein de pays, notamment les États-Unis, mais aussi encore maintenant un peu partout en Europe, où les contrôles migratoires vont très très fort de pair avec les contrôles sanitaires. Et là, il y a un vrai risque à laisser se développer cette idée-là, parce qu'en fait, nous, sur le terrain, on voit bien que ce n'est pas le cas, en fait. Nous travaillons sur des migrants en situation de maladie, mais tous les migrants ne sont pas malades. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur la santé des migrants qu'il faut travailler sur la santé des migrants parce qu'ils sont malades. Il se trouve qu'il y en a qui sont malades, mais en fait, il se trouve surtout qu'ils sont dans des situations à être des contextes sociaux qui sont plutôt délétères pour la santé et qui les portent à être plus à risque que les autres. Mais le fait qu'ils circulent avec des virus, ce n'est pas... et vraiment pas attesté dans les recherches.
Mais quel type de maladie chronique, et vous parlez aussi de pathologies liées à la migration, au logement, faites-nous un petit tableau quand même de ces maladies dont ces personnes souffrent.
Alors pour les personnes qui sont en situation de précarité résidentielle, donc là je parle des personnes en général, on parlera peut-être des migrants en particulier après, mais on connaît bien en fait, il y a beaucoup de travaux sur ça, sur les impacts délétères des logements insalubres, sur la santé des personnes. On pourrait aussi parler de la précarité résidentielle en termes de mobilité aussi, de ce qu'elle impose comme mobilité, c'est-à-dire que la précarité résidentielle ne sont pas seulement les murs et le matériel quoi, autour la maison ou l'appartement, c'est aussi le fait d'être contraint de bouger d'un endroit à l'autre, et cette mobilité subie hein, autour de la précarité, enfin qui rentre dans la précarité résidentielle, a vraiment des impacts délétères d'un point de vue psychologique sur les personnes dont les trajectoires du quotidien sont très hachées.
Oui, j'allais vous poser la question, est-ce que dans ce programme de recherche, il est envisagé de travailler aussi sur les pathologies, disons, psychologiques ou liées au traumatisme de l'expérience migratoire ?
Alors, c'est pas une entrée qu'on a privilégiée, je pourrais peut-être les développer ensuite, mais on tombe énormément sur la thématique de la santé mentale et psychologique de migrants, mais ce n'est pas notre entrée directe. On tombe dessus parce que dans les récits, par exemple, des trajectoires de soins que l'on recueille, les migrants nous font régulièrement part en fait, de l'impact psychologique d'un diagnostic de maladie, de VIH par exemple, ou d'hépatite. Ils nous font beaucoup part en fait, de ce que ça va jouer pour eux à court, moyen et long terme. On touche à ça aussi quand on travaille sur les femmes enceintes, par exemple, pour les suivis de grossesse. Toutes ces ruptures biographiques qui interviennent dans le cours de le parcours biographique de la femme, une rupture biographique qui est liée à la migration, qui est liée à l'arrivée d'un enfant, qui est liée à une situation familiale particulière. Quand elle se vit dans la précarité et dans toutes les difficultés qui s'en suivent, donc les impacts psychologiques nous sont beaucoup remontés.
Il y a une grosse anxiété et souvent une perte de sommeil et beaucoup d'inquiétude du fait que les personnes sont tout le temps convaincues que c'est un événement qui va se répéter et ne réussissent pas à sortir de ce cycle de peur, d'angoisse quotidienne, que qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais mourir dans les instants qui suivent.
Extrait d'un entretien avec Ferdinand Ezembe, psychologue et directeur de l'association Afrique Conseil, dans le journal Afrique de TV5 Monde, c'était en juin 2018.
Et quand on travaille sur les équipes soignantes qui prennent en charge ces migrants, ils nous disent beaucoup que eux-mêmes sont en difficulté pour pouvoir bien les prendre en charge correctement, mais ils se rendent compte que c'est extrêmement difficile d'orienter des patients vers des ressources en santé mentale ou en psychologie du fait de des difficultés même en fait qui font le propre de ce secteur-là de la santé en ce moment quoi.
Du fait aussi peut-être des difficultés liées à la langue.
Exact. Les difficultés liées à la langue, alors elles sont beaucoup plus marquées dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie parce qu'il est essentiel de pouvoir communiquer oralement pour pouvoir développer un échange lors d'une consultation. Et on touche là en effet à un point particulier qui vient entraver l'accès aux soins et qui vient entraver le suivi de soins, c'est la présence des interprètes et la nécessité presque d'avoir des interprètes à plusieurs étapes de la trajectoire de soins de la personne et même de son parcours de vie une fois en France.
Vous parliez tout à l'heure des femmes enceintes avec les problèmes spécifiques auxquels elles sont confrontées. Dans une conférence que vous avez faite, ce qui m'a frappé, c'est beaucoup arrivent donc en France et les hommes sont obligés de repartir parfois dans les pays pour chercher ou de l'argent ou surtout les papiers nécessaires. Et les femmes peuvent passer une grande partie de la grossesse donc exilées et seules. Racontez un petit peu ça. Est-ce que c'est fréquent ou est-ce que c'est des cas exceptionnels ?
Non, ça arrive. J'aurais bien du mal à parler en termes de fréquence et de vous dire quantifier cela, mais ça arrive assez régulièrement en fait que des femmes, mais en fait surtout des couples se retrouvent en situation d'être séparés de fait parce que l'un des deux conjoints a des difficultés administratives, des difficultés pour pérenniser un titre de séjour ou renouveler un titre de séjour et se trouve contraint d'aller faire des allers-retours pour pouvoir régler des questions de papier. Et très souvent, en effet, c'est l'homme qui doit partir et la femme qui se retrouve à suivre seule sa grossesse isolée, alors même qu'elle n'est pas isolée.
Et ce qui m'a frappé aussi dans ce que vous disiez, c'est que les femmes accueillies ici bénéficient d'un suivi médical et psy plutôt correct avant la naissance et que après en revanche elles sont souvent livrées à elles-mêmes, première chose, et que deuxièmement, peut-être par manque de personnel, par manque de temps et tout, ces femmes sont vraiment considérées comme des mères en puissance alors qu'en fait elles ont aussi d'autres projets de vie.
Ça tient particulièrement au fait que nous, dans notre recherche, on travaille sur des dispositifs en précarité qui prennent en charge les femmes sur critères de précarité. Précarité administrative, principalement, les papiers, mais précarité économique aussi. Donc pendant la grossesse, elle se trouve dans une prise en charge totale autour de leur grossesse et le suivi s'arrête mécaniquement, je dirais, avec l'arrivée de l'enfant. Elles sont plus suivies pour une grossesse, donc il y a une rupture en fait qui intervient dans le suivi. Cette rupture, elle est très mal vécue par les femmes. C'est aussi une couche supplémentaire dans les vécus difficiles psychologiques de leur trajectoire. Et elle est vécue aussi difficilement par les services sociaux qui les suivent, hein, qui subissent aussi cette sectorisation très nette, quoi, à partir de quand on commence, ça, on arrête un suivi, etc. Et avec des difficultés pour orienter d'un passage à l'autre, de l'état de grossesse à l'état de jeune mère, en fait. Il n'y a pas les dispositifs pour bien réorienter les femmes. Et donc, souvent, elles se trouvent en situation de rupture. Et en effet, et ça, c'est valable pour tous les suivis de grossesse en ce moment, les femmes sont suivies parce qu'elles sont mères, qu'elles vont être mères et qu'il y a un enfant à arriver et qu'il faut s'occuper de ce binôme mère-enfant avant tout. Et en effet, on oublie du coup pendant cet épisode-là, en particulier pour les femmes migrantes, qu'elles sont diplômées parfois, qu'elles ont déjà travaillé dans leur pays d'origine, qu'elles peuvent potentiellement retravailler. Et le suivi, en fait, pour, par exemple, le suivi de l'emploi, de leur travail, de leur carrière, il n'est pas proposé, il n'est pas assuré.
Christian. Alors peut-être pour poursuivre, et peut-être en faisant aussi un petit détour par les modèles de Michel Foucault sur la prise en charge des populations à partir à hauteur de corps, hein, et en particulier à travers la catégorie de la santé. Est-ce que ces dispositifs, est-ce que cette prise en charge, qu'est-ce qu'il faut en penser, quelle est la part de cette surveillance un peu déplaisante qu'on évoquait au départ et qui traduit une culture de la méfiance à l'égard des migrants, et version plus positive, quelle est la part est-ce qu'on peut aussi dire à l'inverse que ces dispositifs ils participent d'une socialisation, d'une acculturation, d'une intégration, pour utiliser des grands mots, qui peut prendre la forme de la fréquentation des institutions, des personnels de santé.
Pour répondre à la question, je dois juste préciser que nous, les contextes dans lesquels on travaille, donc les villes que j'ai citées au début de notre entretien...
Rennes, Poitiers, Nantes...
Et Strasbourg. Voilà. On se trouve dans des situations où il se passe des choses pour ces femmes. Donc des choses, des initiatives, des choses pour les prendre en charge. Donc on travaille dans des contextes dans lesquels on étudie des choses plutôt qui sont faites positivement, en fait, pour des femmes. Donc plus sur un registre de socialisation, c'est-à-dire dans l'idée de mettre ces femmes dans le circuit de soins, de les bien, qu'elles connaissent aussi le circuit de la protection sociale, etc. Et de bien les intégrer aussi, pour utiliser ce grand mot, dans la ville, et qu'elles sachent aussi s'autonomiser, mobiliser des ressources, etc. Pas uniquement dans la santé, le social, mais aussi dans tout leur contexte du quotidien. Donc on a peu constaté ces régimes de surveillance auprès des femmes. Il n'y avait pas, en fait, dans les équipes ou les associations sur lesquelles on a travaillé, cette volonté de surveillance en termes de contrôle des populations, de contrôle des corps, comme pouvait le dire Foucault. Par contre, on a beaucoup constaté...
Il y a quand même des normes sociales.
Certains processus de normativité et de normatisation de ce qui est attendu d'une femme, en particulier d'une femme migrante autour de l'arrivée de son enfant.
Oui, c'est-à-dire précisément.
Alors, c'est-à-dire, par exemple... Alors, oui, il y a aussi en parallèle tout le registre des catégorisations. Enfin, c'est le régime des catégorisations, par exemple, que peuvent faire les soignants sur les femmes enceintes migrantes qui nous porte à dire cela. Par exemple, donc ça c'est attesté aussi dans la littérature, les femmes originaires d'Afrique subsaharienne seraient vachement mieux accoucher que les femmes blanches. Elles seraient beaucoup moins en difficulté par rapport à la question de l'allaitement, etc. Donc, il n'y a pas spécialement besoin de les entourer au moment de l'accouchement. Il n'y a pas spécialement besoin de leur expliquer comment on met un enfant au sein. Et ça, du coup, ça joue sur toute la trajectoire de suivi, parce que du coup, on ne leur propose rien. Ou peu de choses, parce que on pense qu'elles savent. Donc, on attend d'elles. Voilà, c'est un peu cette norme, cette catégorie qui devient une norme. On attend des femmes en Afrique subsaharienne qu'elles soient autonomes et qu'elles sachent se débrouiller. il n'y a pas les mêmes catégories qui s'appliquent sur d'autres, d'autres femmes, femmes d'Europe de l'Est, les femmes maghrébines, les femmes, etc., etc. Il y a tout un ensemble de registres comme ça, de catégorisation qui portent à poser des regards très normatifs sur...
Est-ce que vous avez des exemples de conflits entre des normes hospitalières, enfin portées par le système de santé occidental, et puis des façons de faire ou des malentendus?
Ouais. Alors il y en aurait plein, alors, là, spontanément.
Des dissonances, sans que ce soit forcément des contradictions.
C'est pas un exemple à nous, mais c'est un exemple que je cite, que j'utilise souvent, qui a été cité par Priscille Sauvegrain, qui est à la fois sociologue et sage-femme. Et donc elle exerce comme sage-femme, mais elle a aussi donc un doctorat de sociologie sur la question des discriminations et des catégorisations ethno-raciales appliquées dans le système de santé sur les femmes d'Afrique subsaharienne. Elle nous dit souvent, quand elle fait sa tournée en tant que sage-femme, elle entend des médecins dire, par exemple, Madame Camara, là, qui vient du Mali, c'est bon, c'est pas la peine, on va pas aller la voir, tout se passe bien, l'accouchement s'est bien passé, ça va bien se passer, on zappe, on va passer plus de temps sur d'autres patientes. Et elle dit, je rentre quand même dans la chambre de Madame Camara, et Madame Camara, bah, comme toutes les autres femmes, je la retrouve en pleurs, parce que, en fait, elle a besoin d'être aidée, elle est comme toutes les autres femmes, à partir du moment où elle a accouché, bah, y a des choses, en fait, un peu difficiles et submergées émotivement. Et en fait, il faut l'aider, Madame Camara, quand même. Donc voilà, on retrouve quand même pas mal de...
Enfin, en l'espèce, c'est plus un dysfonctionnement côté personnel hospitalier que... la distance est un peu dans l'autre sens, là.
Oui, parce que vous voulez qu'on aborde quelques exemples du point de vue des patients et qui est attendu
par exemple,
des médecins. Ce qu'on constate et ce sur quoi on travaille surtout, parce que ça nous interroge, c'est surtout les femmes en fait nous livrent des récits très positifs de leur expérience de suivi de grossesse. Elles nous livrent des récits très difficiles au moment de la rupture dont on a parlé tout à l'heure autour de l'accouchement, quand elles sont plus suivies par les personnes qui les entourent autour de la grossesse. Mais elles sont quand même globalement très positives et elles nous livrent très peu de choses négatives sur leur relation de soins avec les sages-femmes, les puéricultrices, les gynécologues, les généralistes, etc. C'est pas là que ça se joue pour elles, donc elles n'ont pas d'attendu de la part du corps médical, et elles ont un regard très positif sur ce qui a été fait pour elles. À l'inverse, on a les professionnels de santé, alors qu'ils sont parfois conscients des processus de catégorisation dont on a parlé tout à l'heure et qui essayent de ne pas les appliquer, les répliquer sur les patientes.
Qui ne sont pas contents de ces femmes-là?
Non, qui sont dans une situation de très grande insatisfaction de leur contexte de travail qui les empêche de les prendre en charge correctement. D'accord. Donc on est vraiment en train de s'interroger sur ce paradoxe quoi, entre des femmes qui ont un discours très positif sur leur suivi et des médecins, des travailleurs sociaux, des soignants dans tout leur ensemble en fait, qui s'estiment en fait ne pas être dans des conditions propices pour pouvoir prendre en charge des femmes en situation de précarité et des femmes étrangères.
Pour eux, ils n'en font pas assez.
Ils n'en font pas assez, ils n'ont pas assez
c'est
de temps, ils n'ont pas
jugent.
Assez de budget et ils ne sont pas assez considérés dans leurs demandes vis-à-vis de leur hiérarchie.
Est-ce que ces femmes et ces hommes, quand ils arrivent en France, s'ils peuvent, est-ce qu'ils ont recours aux médecines traditionnelles qu'ils connaissaient dans leur pays ou pas?
Ouais, c'est une bonne question. C'est une des premières questions que je m'étais posée en travaillant sur ce sujet-là. En fait, de ce que j'ai constaté et de ce qu'on continue à constater, c'est que la précarité permet pas d'être dans ce, enfin la précarité vécue à part les personnes auprès de qui on travaille ne permet pas d'envisager du pluralisme thérapeutique. C'est-à-dire qu'on est dans des situations de précarité où le corps en fait est le corps et la santé n'est pas nécessairement une préoccupation du quotidien. Donc on constate beaucoup de non-recours aux soins, beaucoup de renoncements aux soins, mais aux soins dans leur ensemble.
Oui.
Voilà, et c'est pas parce qu'on n'a pas accès aux soins de médecine française ou occidentale qu'on va essayer d'avoir recours à d'autres soins pour les personnes sur lesquelles on travaille. Les personnes là qui sont, que nous on rencontre, En fait, elles sont surtout frappées au quotidien de difficultés pour, on l'a déjà dit, leur titre de séjour, leur logement, et voilà, et leur situation économique.
Des enfants,
voilà,
etc.
Au quotidien. Mmh. Et la santé devient vraiment une préoccupation moins urgente. Ouais.
Et donc, ça veut dire que on va plutôt aux urgences quand vraiment on n'a pas d'autre solution, ou enfin on est sur les situations
où les soins en fait sont repoussés.
Ouais.
Ouais. On est plutôt là-dessus. Ouais.
Alors effectivement, les obstacles sont nombreux. Certains n'ont pas de connaissance en fait des structures de soins qui pourraient potentiellement les accueillir à travers des structures habituelles et des statures habituelles. Et c'est une des fonctions des centres d'accueil de Médecins du Monde dans tout le territoire européen, de les informer sur la possibilité d'avoir accès aux droits communs. Donc ça, c'est un défaut d'information. Il y a des obstacles financiers, parce que pour ceux qui voudraient consulter des médecins ou des soignants de façon générale, ou aller dans les hôpitaux, les obstacles financiers sont considérables, hein, en l'absence de protection sociale ouverte, de droits sociaux ouverts. Il y a des obstacles de langage qui sont également considérables. Arriver dans un pays dont on ne connaît pas la langue, c'est très très compliqué.
François Civil, Vignon, présidente de Médecins du Monde France, invitée dans l'émission Priorité Santé sur RFI en novembre 2016.
Il n'y a pas des réseaux ou des médecins qui peuvent être de la même origine, nationalité que les patients. Ces réseaux, ces adresses qu'on s'échange, etc., dans une ville, dans une région, aussi avec la difficulté des déplacements, ça on est bien d'accord. Mmh. Mais est-ce que ça existe ou pas?
Alors moi je dirais que ça existe, mais je pense que ça existe surtout chez les migrants installés depuis plus longtemps. Mmh. Donc moi, je le redis, comme on travaille sur des migrants qui sont arrivés récemment, donc c'est des périodes de un an et demi, on n'a pas vu beaucoup ça, et on ne travaille pas non plus dans des villes où il y a beaucoup de médecins étrangers, faut le dire.
Oui.
Donc
c'est
pas quoi, vraiment...
En Île-de-France, région parisienne.
Ça serait peut-être plus constaté, peut-être en zone plus dense, ouais, en Île-de-France. Mais j'ai un cas en tête qui me revient, c'est dans une des villes dans lesquelles on travaille, un médecin généraliste originaire d'un pays d'Afrique subsaharienne qui me disait, mais moi j'en ai marre, on m'envoie les associations, etc., m'envoie tous les migrants originaires, oui, de mon pays, parce que en fait ils pensent que ça va mieux se passer. Mmh. Mais ça, en fait, c'est pas, je suis même si on est originaire du même pays, je suis pas assez chevronnée pour travailler sur ces situations là et voilà, donc lui ça l'embêtait plutôt en fait de recevoir ses compatriotes
quand même. Du coup, un vrai défi pour la médecine, qui est l'universalité, l'impersonnalité. Voilà, est-ce qu'on traite une personne ou est-ce qu'on traite une pathologie, et si à quel point il faut s'adapter à la personne.
Alors l'universalisme, il est mis à mal tout le temps dans les travaux qu'on fait. On le voit à tous les moments. On a d'abord ce hiatus entre un système de santé universaliste et des politiques migratoires, en fait, qui viennent expliquer que tout le monde n'a pas accès aux soins parce que, en fonction des différents titres de séjour, on n'a pas accès aux mêmes soins, voire on n'a pas accès aux soins. Donc on a ce premier hiatus. Et ensuite, on a en effet, au quotidien, sur le terrain, on travaille sur des associations qui ont de médecins qui se spécialisent sur l'accès aux soins des migrants. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de se spécialiser sur l'accès aux soins des migrants, sur une population en particulier? Et donc les médecins sont balancés entre ces deux pôles, entre jouer sur l'hyperspécialisation qui est nécessaire parce qu'en fait, ce sont des situations sociales très dures très complexe plutôt à prendre en charge, et il faut savoir le faire. Donc on a ces savoir-faire dans certaines associations, donc c'est très bien, mais d'un autre côté, c'est très difficile à justifier dans un système de santé qui est universaliste de vouloir faire une priorité autour d'une population, et donc une différence.
On va faire une première pause musicale. C'est le groupe rennais Malade qui nous interprète Endless Nights.
Thank you.
C'était Malade à l'instant sur Canal B avec le titre Endless Nights. Et aujourd'hui, dans Chercheurs en ville, nous recevons Anne-Cécile Oyer, chargée de recherche CNRS en géographie au laboratoire ESO pour parler des migrations et de la santé. En première partie d'émission, vous avez pu découvrir l'essence du programme scientifique MIXAN, Migration et Santé, avec un constat: l'accès aux soins des primo-arrivants hors de l'espace Schengen en Europe ressemble à un parcours du combattant, avec une prise en charge insuffisante des pathologies d'ordre mental. Nous nous sommes arrêtés sur le cas des femmes enceintes confrontées à l'isolement lorsque le conjoint a été expulsé, avec des pratiques des soignants impactées par des représentations liées aux origines de ces patientes. À présent, il va être question du VIH, de marginalisation, de bricolage. En effet, certains personnels soignants contournent l'institution pour prodiguer des soins à des personnes sans papier. Puis, nous nous intéresserons à la suite du programme scientifique Migration et Santé, ainsi qu'à l'intérêt d'Anne-Cécile Oyer, notre invitée, pour la circulation du yoga à travers le monde, comme médecine traditionnelle, le point de départ à ses recherches sur la santé à travers l'espace.
Anne-Cécile Oyer, un des axes de votre recherche et du programme MIXAN, c'est bien sûr le VIH. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ?
Oui, alors nous on a commencé à travailler sur les migrants atteints de VIH dans un contexte très particulier de l'histoire du VIH, hein, avec toutes les avancées par rapport aux médicaments, etc. Le VIH est aujourd'hui considéré en France comme une maladie chronique dont on ne meurt plus, que l'on peut prendre en charge à condition d'être sous traitement. Historiquement, les travaux sur migration et santé se sont développés dans les années 1990, notamment autour de Didier Fassin, en France, sur justement cette épidémie de VIH qui touchait de façon très particulière les migrants, et notamment les migrants d'Afrique subsaharienne. Donc, avec ces 25 ans d'écart entre le début de ces travaux et puis les nôtres, on a voulu se pencher là-dessus du point de vue de l'expérience du VIH. On s'est rendu compte de plein de choses. Déjà, que du point de vue des populations étrangères, l'idée même que le VIH puisse être une maladie chronique et non une maladie mortelle est pas encore acquise, ce qui pose une question à une échelle très large, quoi, de la diffusion des travaux, des médicaments, des traitements, etc. sur le VIH. Il y a ça du côté sanitaire et du côté social aussi. On se rend compte que cette maladie est encore vraiment frappée la réputation d'être une maladie sale, une maladie de personnes de mauvaise réputation et une maladie qui frappe un peu comme un sort. C'est resté encore très présent, et l'ostracisation des patients atteints du VIH est encore très présent chez les patients étrangers. Ce double aspect, le VIH c'est une maladie mortelle et le VIH c'est une maladie sociale aussi, est encore très présent, ce qui nous porte à dire qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travaux à produire, beaucoup de paroles scientifiques à produire autour de la maladie pour déconstruire ces représentations négatives, des représentations négatives qui impactent les migrants vraiment au quotidien, c'est-à-dire que ils vont être dans une relation de confiance avec les médecins qui les prennent en charge ici, dans les lieux de soins, dans les hôpitaux, dans les associations qui s'occupent des patients atteints de VIH. Mais par contre, dans leur sphère personnelle, ils vont plutôt avoir tendance à cacher les médicaments, cacher la maladie et avoir plein de stratégies de dissimulation pour ne pas être repéré comme un patient VIH. Et le risque principal, c'est si jamais on est repéré par des proches comme étant atteint du VIH, les personnes risquent de partir et d'être en rupture, à nouveau en rupture de traitement, etc. Et donc c'est ce que craignent beaucoup les médecins.
Donc là, il y a une double marginalité, en quelque sorte. On est marginalisé au sein d'une population déjà précaire.
Exact, oui. Et du point de vue des médecins, ça c'est très bien repéré en fait, cet engrenage, et puis le contexte social aussi, enfin le contexte de vie sociale des migrants atteints du VIH est quand même très connu, ça a été très documenté, et bon là les professionnels de la santé le connaissent bien et le savent. Alors du coup on les voit, on constate que pour favoriser l'accès au traitement de leurs patients, ils sont prêts à transgresser des normes institutionnelles. Pour pouvoir mettre des patients sous traitement à tout prix, y compris quand ils n'ont pas de papier. Ils ont plein de petites pratiques buissonnières, comme le disait De Certeau, notamment autour du traitement. Et concernant la problématique du secret aussi, on sait que les professionnels de la santé savent en fait que les patients ont besoin de vivre avec ce secret, de le préserver. Et donc c'est assez fréquent qu'on voit des professionnels de santé qui gardent des boîtes de médicaments de leurs patients dans le service et qui donnent des piluliers, par exemple, pour que les personnes puissent en toute discrétion prendre leur traitement.
Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que l'institution s'adapte, alors sur le mode du bricolage, mais voilà, l'institution, dans toute sa lourdeur et dans toute sa prétention un peu parfois arrogante à l'universalité, est aussi capable d'entendre des singularités, des distances, des spécificités.
Ouais, exactement. C'est en effet cela. Il y a des marges de manœuvre dont les professionnels arrivent à se saisir au sein de leur service. Mais nous, quand on parle avec eux, ils le vivent quand même. Pas comme un truc chouette, mais vraiment comme un truc qui les met en tension entre la réalité vécue sur le terrain et les normes qui sont fixées par l'administration hospitalière. Et puis plus largement, ils sont les premiers à ressentir cette tension entre politique de santé et politique migratoire, et puis tous les changements qui interviennent actuellement au sein du système de santé publique français, notamment autour de l'hôpital. Ouais.
Quand vous parliez du secret, particulièrement pour le sida, j'imagine que c'est pas quelque chose qui ne s'applique qu'aux migrants, que des malades français, peut-être moins maintenant, mais les soignants étaient confrontés à ça pendant des années et des années. Il ne fallait pas que ça sache.
Ouais, pendant très longtemps, mais du coup le tournant, on nous le signale souvent, le tournant justement de l'accès aux médicaments en France a vraiment montré que dans une certaine catégorie de la population, il fallait garder encore le secret, et c'est principalement chez les patients étrangers. Les patients, les nationaux, les Français sont dans des situations à pouvoir plus facilement dévoiler ou se faire aider autour de la maladie, ce qui est moins le cas pour les migrants. De ce fait, en fait, alors c'est peut-être qu'on est dans un régime de représentation, hein, mais de fait, les médecins nous disent qu'ils sont moins inquiets pour leurs patients français nationaux que pour les patients étrangers. Et de ce fait, ils se mobilisent un petit peu plus pour eux, pour aller justement trouver ces marges de manœuvre. Ouais. Et nous, par exemple, dans les personnes qu'on a rencontrées, donc qui sont des personnes étrangères hors Union européenne et hors espace Schengen, il n'y en avait que deux qui nous ont dit qu'ils avaient dévoilé la maladie à leurs proches, mais dans un cercle extrêmement restreint, vraiment.
Ce programme Mixan s'achève l'an prochain, 2020. Comment vous allez le faire connaître et les conclusions, comment vous allez diffuser vos travaux?
Alors, on a plein de choses. Là, on est à mi-étape du projet et on est très présent dans la sphère universitaire et recherche, où on essaye de participer un maximum aux événements scientifiques qui se jouent autour des questions migratoires, autour des questions de santé et plus largement autour des questions sociales. Et la sphère qu'on investit aussi beaucoup, c'est la sphère médicale actuellement, où on essaye vraiment d'être très, très actif en matière de diffusion de nos recherches, de déconstruction de toutes les catégories dont on a parlé avant, auprès d'un public des médecins, des travailleurs sociaux, de tous les travailleurs de la sphère de la santé.
Et ce dialogue-là, il est fructueux entre sciences humaines et professions de santé, parce que c'est une histoire parfois longue et un peu chaotique, un peu compliquée parfois.
Eh ben, on est assez positif en ce moment. Enfin, ça a été longtemps difficile, ce dialogue, mais autour des questions de précarité, notamment. On sent qu'il y a de plus en plus des oreilles réceptives au sein des institutions de santé, au point que, enfin là, on en parlait récemment avec mes collègues, on n'est plus là, les sciences sociales, la caution, un petit peu, voilà, où on saupoudre un petit peu de sciences sociales, un projet.
Il y a une vraie demande.
Il y a une vraie demande, et il y a une vraie demande à ce que parfois ce soit piloté par les sciences sociales. Notamment pour la liberté de parole et pour tout ce travail qu'on fait sur la déconstruction qui est vraiment très, 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 très attendu. Donc on est en ce moment dans une période où on est très positif en termes de collaboration avec le monde médical et ça se passe bien, on espère perdurer. On est aussi demandé pour faire des formations, soit dans les facs de médecine, mais aussi école de sage-femme, soins infirmiers, etc. On nous demande aussi d'intervenir comme ça sur des secteurs particuliers. Et ensuite, en matière de valorisation aussi, on est très proche aussi de la sphère associative et militante, où on pense vraiment que les savoirs universitaires, académiques, peuvent être transférés chez les militants. Et on sait bien aussi chez les militants qu'il y a énormément de savoir-faire en matière de sciences sociales, parce qu'on était largement formés aussi dans les universités. Et du coup, on se retrouve sur des dialogues assez intéressants et à pouvoir être sur le terrain avec des acteurs de terrain, de travailler sur des acteurs de terrain, mais travailler aussi avec des acteurs de terrain. Ce qui est très intéressant aussi d'un point de vue intellectuel, parce qu'on est vraiment obligé de s'interroger sur le sens de l'éthique, de l'engagement et de la réflexivité.
Et du côté des compétences des migrants eux-mêmes, est-ce qu'il y a aussi un dialogue avec des gens qui éventuellement ont pu avoir à l'origine des métiers liés à la santé?
Ah, alors cette catégorie-là, en effet, on n'a pas rencontré de soignants, de migrants soignants. Par contre, si quelque part, en fait, quand on a travaillé sur les interprètes, par exemple, c'est très intéressant de voir que le métier d'interprète en santé, qui est en train de se développer et se spécialiser, le métier d'interprète en santé est très investi par des migrants qui, dans leur pays d'origine, pouvaient avoir été formés dans le domaine médical ou dit paramédical, ou dans le domaine de l'enseignement aussi. On retrouve beaucoup ça dans les profils des interprètes en santé qui interviennent en France dans différentes associations. Ouais.
Vous avez fait votre doctorat de géographie sur le yoga, sur cette médecine et manière d'être particulière. Est-ce que vous avez le temps de continuer vos recherches qui s'étaient achevées, je crois, en 2005 sur l'espace monde du yoga, cette manière de s'exporter, de s'adapter. Est-ce que vous avez le temps de continuer sur ce thème-là?
Alors j'ai pas le temps malheureusement d'un point de vue de recherche approfondie, mais je reste très attachée à cette thématique-là, donc je la regarde régulièrement et je lis encore régulièrement les publications de mes collègues qui continuent à travailler dessus ou qui s'y mettent, et c'est vraiment très très intéressant. Moi, mes travaux sur le yoga, ils ont commencé en 2000. La thèse a été soutenue en 2005 et puis sont suivies plusieurs années ensuite de recherche postdoctorale sur la question. Et puis à un moment, j'ai fait ce tournant pour travailler sur la santé des migrants. Notamment, alors peut-être, je ne sais pas si je peux le dire, notamment parce qu'en fait, j'ai voulu travailler à un moment sur les migrants d'origine indienne en France. Et dans l'idée de travailler sur le fait que j'avais travaillé sur des circulations de savoir et de savoir-faire thérapeutique, et que peut-être les migrants originaires d'Inde aussi, peut-être qu'eux aussi utilisaient ça. Et donc je suis allée à Paris, un peu plus largement en Île-de-France, pour essayer de trouver ça. Et en fait non, j'ai été frappée par le fait que les migrants en fait avaient des difficultés fondamentales d'accès aux soins du point de vue des droits, et que ce soit les migrants indiens, sri-lankais, bangladeshi. Et du coup, c'est là-dessus que je suis partie, plus que sur les pistes de des médecines indiennes. Les médecines indiennes, elles, restant vraiment très très cantonnées à une patientèle ou clientèle blanche, française, et très férue de pluralisme médical qui intègre des médecines venues d'Inde.
La sagesse orientale épate l'Occident depuis Socrate. Il y a un siècle, un premier yogi a séduit l'Amérique du Nord. Swami Vivekananda était antisectaire et prêchait à chaque humain sa religion. C'est lui qui a ouvert la porte du continent à la pensée hindoue. Puis d'autres ont suivi.
Extrait du documentaire Planète Yoga de Carlos Ferrand, une production Arte sortie en 2011.
On avait ouvert l'émission en évoquant la mondialisation, et je rappelle que vous êtes géographe, donc évidemment toutes les questions de circulation et plus généralement de mondialisation ne peuvent pas ne pas vous intéresser. Et évidemment, dans le cadre du yoga, et ça vous le démontrait très bien, c'est absolument fascinant de voir comment, parmi beaucoup d'autres cultures, parmi d'autres types de rapports au corps, à l'intime, voilà, il y a eu une circulation, une exportation, importation du point de vue de l'Europe, et voilà, la production d'un standard international, on pourrait presque le dire comme ça, un peu comme la médecine occidentale est devenue un standard international, mais dans l'autre sens.
Oui, c'est exact. Alors, en effet, en tant que géographe, moi, quand je m'intéresse au processus de mondialisation, je déroule un fait mondial ou un fait mondialisé, une pratique mondialisée, et je vais aller décliner ça à différentes échelles pour aller comprendre un petit peu ce qui varie à chaque fois qu'on change d'échelle d'observation. Et en effet, on peut aller jusqu'au corps. Et ce processus de mondialisation qui se lie dans plein de choses, dans des pratiques qui circulent, elles circulent pas comme ça, sans rien en fait. Elles sont très très plaquées sur des circulations qui suivent l'économie, un mode de diffusion en fait, qui suit l'économie libérale. Donc tout ce qui a circulé autour du yoga sont aussi des produits, produits commerciaux, commercialisables, qui ont fait aussi que cette diffusion ait pu émerger aussi rapidement.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un peu quand même une standardisation du rapport au corps? Est-ce qu'il y a une mondialisation de l'intime? Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, alors dans le yoga, il y a en effet une standardisation du rapport au corps. Un rapport au corps qui est très très marqué par en effet un intérêt central autour de la santé et du bien-être que l'on pourrait maîtriser soi-même grâce à ces compétences-là. Donc il y a cette standardisation. En même temps, il y a une recherche de beaucoup de différenciation, d'appartenir à des mouvements différents, de tel gourou, telle école, telle fédération, telle chose. Donc on voit aussi cette diversification et ce besoin d'être différent dans ce grand tout qui est le yoga.
Ça, en même temps, ça participe aussi d'une seconde modernité hyper individualisée, enfin qui est complètement en phase avec le néo-capitalisme, enfin pardon d'utiliser de telles expressions, mais voilà, l'idée que la solution à mes problèmes est en moi, c'est pas du tout neutre du point de vue idéologique.
Exact, ouais. C'est ce que disent mes collègues anthropologues ou sociologues qui continuent à travailler sur la question. C'est vraiment là-dedans que se développe, dans cette dimension-là, que se développe le yoga, c'est-à-dire une perspective hyper individualiste, mais qui a quand même cette caution très internationale. Voilà, de cet engouement. Donc, on serait quand même connecté sur des mouvements globaux. Donc, ça permettrait de masquer l'individualisme. Mais au quotidien, dans les pratiques, ce qu'on voit, c'est vraiment des personnes qui sont là pour elles.
Mais ça, c'est pour les pratiquants occidentaux, européens, américains, etc. En Inde, toute la récupération du yoga par l'extrême droite, par exemple. Mm-hmm. Comment vous l'analysez tout ce côté identitaire, c'est chez nous, marque de fabrique, etc.
Ouais,
sur le plan politique.
C'est quelque chose qui est très marquant dans la réémergence du yoga en Inde à partir des années 90, je dirais à peu près, même si l'histoire peut remonter, on peut remonter un peu plus loin, mais il y a quelque chose qui tourne beaucoup autour de l'individualisme en Inde aussi, qui est pas très différent de ce qui se passe ici, sur le fait qu'on va là pour soi. Mais à ça se plaque la culture indienne, ses référents culturels indiennes qui arrivent par-dessus, mais en fait qui sont pas vraiment indiennes, qui sont surtout hindous. Et de là vient en fait cette connexion en fait entre des pratiques individuelles, cette identité collective qui est très marquée par l'hindouisme et cette instrumentalisation politique du yoga par les partis d'extrême droite qui voient dans ce mouvement de mondialisation une très bonne opportunité pour parler d'eux, pour réaffirmer leur puissance historique. Voilà, pour marquer un petit peu des contre-courants aussi dans la mondialisation dont ils seraient maîtres. Et ça, on en avait vu des prémices dans les années 90, surtout au début des années 2000. Et puis là, avec le gouvernement qui est en place, l'a énormément renforcé. Et il avait tous les outils pour le faire parce que ça a été pendant 15 ans très développé sur le terrain en Inde, ce lien entre la culture hindoue et le yoga et sa mondialisation. Et voilà, une des premières choses qu'il a fait, le premier ministre hindou Modi, c'est d'aller faire déclarer, de mettre en place une journée internationale du yoga à l'UNESCO aux États-Unis. Ce qui est un acte qui pourrait sembler symbolique, mais qui est en fait politiquement chargé de sens.
Ça, c'était quand? C'était récent?
En 2015.
2015, oui. D'accord.
Et là, ça devient vraiment l'étendard d'un État-nation qui se définit par la religion. Enfin, ça participe, d'un...
Oui, on est clairement là-dedans, parce qu'avec l'arrivée de cette journée mondiale du yoga, il n'y avait pas que cet effet d'annonce internationale autour du patrimoine culturel de l'Inde et de l'hindouisme. Il y a aussi eu des programmes pour que le yoga soit présent massivement dans la formation des corps de policiers, de l'armée, de tous les agents du service public indien, etc. Donc ça s'est vraiment transformé en acte. Sur le terrain, là, je ne saurais pas dire si ça a perduré, si ça a vraiment pris. Hein, de ce que j'ai entendu, c'est pas nécessairement arrivé, mais en tout cas c'est là. Et
une reconfiguration de l'hindouisme sous une forme assez agressive, quoi. On peut le dire.
Agressive, oui, très territorialisée aussi sur tout le territoire de l'Inde, avec cet appui de légitimation autour de la mondialisation et de tout ce qui s'est fait en matière d'engouement en Europe et aux États-Unis, en Amérique du Nord.
Anne-Cécile Loyer, on vous remercie beaucoup. L'émission est terminée. Merci Christian Lebar, merci notre réalisatrice Lucie Louapre. Et rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de Chercheurs en Ville.